Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Fin janvier, 70 communes bretonnes, dont Rennes, subissaient les pires inondations que cette région ait connues depuis au moins 40 ans. Une crue de l'Isle et de la Vilaine survenue suite à la tempête Herminia. 6 000 à 8 000 habitations auraient été touchées selon la Caisse centrale de réassurance qui chiffre les dégâts entre 130 et 160 millions d'euros. Une goutte d'eau, si j'ose dire, comparée aux inondations qui ont touché la région de Valence et la Catalogne à l'automne 2024. Si les dégâts matériels y sont colossaux, on les chiffre cette fois en milliards d'euros, c'est le lourd bilan humain, 240 morts et disparus, que l'histoire retiendra. Et que dire de Mayotte, sinistrée par le cyclone Chido en décembre dernier, dont le bilan humain reste assez opaque, mais dont les dégâts matériels assurés ont été chiffrés selon le réassureur public à 800 millions d'euros, sachant que seuls 6% des Mahorais disposent d'une assurance. Inondations, tempêtes, sécheresses, cyclones, mouvements de terrain, partout où les catastrophes naturelles sévissent, les territoires mettent des mois, voire des années à se relever, et plutôt des années. Des situations dans lesquelles se révèle également en creux le millefeuille administratif français, vers qui se tourner quand votre maison est ravagée, quand une route n'est plus praticable ou l'école de vos enfants condamnée. Mairie, département, région, État, chacun possède sa compétence, alors dans le doute, les administrés se tournent le plus souvent vers l'élu le plus proche, le maire. Comment ces municipalités, souvent rurales, parviennent-elles à gérer ces catastrophes naturelles? De quels leviers disposent-elles? Quelles réponses budgétaires peuvent-elles apporter? Autant de questions sur lesquelles notre invitée s'est penchée dans sa dernière étude publiée dans la Revue économique en décembre dernier. Elle est chercheuse au CEM, le Centre d'économie de l'environnement de Montpellier. Avec nous en studio, Carla Morvan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Merci. C'est une première. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va pas le faire? Bah oui, elle va le faire. C'est une catastrophe naturelle dont on ne pourrait sonder les dégâts abyssaux. Avec moi pour mener cette interview, la périlleuse Périllo Aline.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous emmenons à la faculté de droit et sciences politiques où Alexis Verracel nous a fait découvrir son terrain de thèse, la bibliothèque d'histoire du droit. Et notre invité des trois dernières minutes revient régulièrement sur ce plateau comme le calme après la tempête. Thomas Pichéry nous présentera le prochain bar des sciences qui se tient ce jeudi au Dôme. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Carla Morvan, alors pour commencer, administrativement, comment est-ce qu'on définit une catastrophe naturelle ?
Alors administrativement, c'est vraiment le bon terme, puisqu'en France, on a un statut particulier de la catastrophe naturelle. Il s'agit d'un événement climatique majeur, anormal, qu'on décrit comme exceptionnel et qui peut apparaître à n'importe quel moment du temps.
Alors, combien de catastrophes naturelles sont répertoriées en moyenne en France chaque année? On vous pose la question parce que quand on a vu les chiffres, on a été surpris.
En moyenne, on estime à 3000 catastrophes naturelles par an, donc des communes recensées comme telles. Mais bien sûr, il y a des années où il y en a beaucoup plus et d'autres beaucoup moins. C'est chiffre moyen.
Et majoritairement, en France, on est confronté à quoi? On se dit que les cyclones, bon, Mayotte est bien en France, mais...
Très majoritairement, donc en France hexagonale, il s'agit d'inondations, avec très majoritairement, donc plus de 60% sont des inondations. On a également des sécheresses, des mouvements de terrain et quelques tempêtes. Et après...
Et voilà. Tout le territoire est concerné, en gros
Globalement, tout le territoire est concerné. Ça peut apparaître dans le nord, dans le sud. Bien sûr, les zones côtières, les zones fluviales sont plus touchées. Logiquement.
Alors, qui décide de classer ces événements comme des catastrophes naturelles ou pas? Et quels sont les critères qui sont retenus pour cette classification?
Alors, le statut de catastrophe naturelle, il est décerné à une commune, décerné, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais par une commission interministérielle, donc après une demande du maire de la commune, une commission interministérielle se tient pour estimer si cette catastrophe est assez anormale, assez exceptionnelle pour obtenir ce statut.
Et alors, on sait justement qu'en France, de cette déclaration dépend le déclenchement ou non du processus d'assurance. Est-ce que c'est une exception ou est-ce que c'est pareil chez nos voisins européens ou aux États-Unis, par exemple ?
Alors, la France, on a une sorte d'exception en Europe. Hein, ça marche pas. Le principe de réassurance n'est pas le même chez nos confrères européens. Mais au niveau, enfin, aux États-Unis, il existe aussi ce statut de catastrophe naturelle qui est décerné donc à un État, à une région soumise à ce type de catastrophe. C'est une désignation.
Et justement, il y a une actualité un peu récente, parce qu'il y a une nouvelle loi sur les indemnisations des catastrophes naturelles qui a été promulguée en 2021. Est-ce qu'elle change concrètement déjà des choses, cette loi ?
Alors, l'objectif de cette loi, c'était de désopacifier le processus de désignation de catastrophes naturelles, puisque jusqu'alors, c'était une commission ministérielle assez opaque. On ne savait pas très bien quels étaient les enjeux, et on a beaucoup d'élus locaux qui se sont plaints. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé cette nouvelle loi. Cependant, elle vient simplement d'être appliquée au 1er janvier 2023, si je ne me trompe pas, donc on n'a pas encore de retour suffisant pour savoir quels sont les réels changements.
Vous avez travaillé sur 34 393 communes, alors que la France en compte 36 680. Les chiffres sont précis. Alors pourquoi est-ce que vous en avez sorti un peu plus de 300 ?
Alors tout d'abord, j'ai exclu les communes d'outre-mer. D'autres scientifiques s'intéressent particulièrement au cas des outre-mer sur les conséquences des catastrophes naturelles. Mais dans mon étude, je voulais avoir quelque chose de global. Et donc, considérer le volcanisme ou les cyclones, c'est quand même pas la même chose que se consacrer aux inondations. Donc c'est principalement pour ça.
Et quel est le rôle du maire en cas de catastrophe naturelle ? On l'a dit, c'est vers lui qu'on se tourne en priorité. Mais est-ce qu'aux yeux de l'administration, c'est aussi lui le principal responsable ?
Tout à fait, on se tourne vers lui. Parce que c'est lui le principal responsable, c'est lui qui doit gérer à la fois donc, la gestion de la catastrophe naturelle à l'instant de cette catastrophe, donc la gestion des services d'urgence, la communication, les transports, etc. Et également, donc, à la suite de la catastrophe, c'est lui qui doit mettre en place la continuité du service public, en fait, le maintien de ce service, et également c'est lui qui est responsable de la prévention contre les catastrophes naturelles. Et donc, juridiquement, c'est ce maire qui est responsable, devant la loi, de la bonne gestion de la catastrophe.
Et la loi NOTRe de 2015, avec la mise en place des intercommunalités, elle a un petit peu nuancé ça ou non ? C'est toujours lui qui est...
Juridiquement, c'est toujours le maire qui est responsable. Après, la loi NOTRe, je ne suis pas sûre qu'il y ait eu de réel impact, mais cependant, il y a une loi en 2018 qui est la GEMAPI qui a offert la possibilité à l'intercommunalité de prendre le pas sur la gestion principalement des cours d'eau.
Alors, on a parlé un petit peu d'assurance tout à l'heure avec le statut de catastrophe naturelle, mais dans une commune, on ne peut pas tout assurer. Qu'est-ce qui fait partie des infrastructures qui sont assurables et de celles qui ne le sont pas ?
C'est justement la grosse difficulté pour les municipalités, puisque la plupart de leurs biens ne sont pas assurables. Donc, bien sûr, on assure le bâti, on assure les constructions, les bâtiments municipaux, mais tout ce qui est route, pont, réseau, ça ne peut pas être assuré. Et donc, c'est à la charge du maire de rétablir la continuité de ses services publics. Là, notamment des routes, des ponts, etc.
Et justement, tous ces infrastructures-là, quand il doit en assurer la reconstruction, c'est sur les fonds de la municipalité ou est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide spécifiques ?
Alors, oui, c'est sur les fonds de la municipalité, mais la municipalité est aidée pour amener des fonds pour la reconstruction, notamment par les subventions des gouvernements supérieurs, c'est-à-dire l'État, principalement.
Et les assurances qui rentrent en jeu, ce sont les mêmes que les nôtres qu'on peut avoir au niveau privé ou
tout à fait sur le bâti, pardon, je vous ai coupé, mais tout à fait sur le bâti, ce sont des assurances. Enfin, ils sont assurés envers des compagnies d'assurance comme nous tous.
Alors, dans cette étude, vous avez travaillé à partir de plusieurs bases de données. Vous parlez, pour commencer, de la base de données Gaspard. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, la base de données Gaspard, c'est la base de données du ministère de l'Environnement qui recense toutes les catastrophes naturelles depuis la première loi sur les catastrophes naturelles de 1982. Et donc, c'est une base de données qui recense l'ensemble des catastrophes naturelles apparues sur le territoire français au niveau communal. Et donc, qui nous donne sa date et le type de catastrophe concernée.
Alors ensuite, il a fallu accéder aux comptes des mairies, c'est un sacré boulot aussi ça. Il existe une base de données toute faite ou vous avez...
Alors oui, il existe une base de données toute faite. En fait, les comptes communaux sont des données publiques depuis 2000. Donc vous pouvez aller sur data.gouv et trouver le compte de votre municipalité sans aucune difficulté. C'est plus ou moins bien rempli en fonction de la taille de la commune, mais tout c'est public.
Et votre troisième base de données, pardon, j'étais perdue dans mes questions, votre troisième base de données, elle correspond aux variables de contrôle. Alors, qu'est-ce que vous désignez ainsi ?
Alors, les variables de contrôle, donc vous avez bien compris que j'essaie d'amener un lien entre la catastrophe naturelle et le compte de la commune. Cependant, plein de facteurs peuvent entraîner différence entre les comptes des communes en moyenne, entre toutes nos communes françaises assez hétérogènes. Donc il s'agit de contrôler pour les différents facteurs qui peuvent influencer ces comptes, notamment la taille de la commune, la richesse de cette commune, ou si elle fait partie d'une intercommunalité ou non.
Alors, sans trop rentrer dans les détails techniques, mais est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu ou nous décrire le modèle que vous avez élaboré pour estimer justement la réponse budgétaire des communes ? Vous appelez ça un modèle économétrique, c'est ça ?
Tout à fait. Donc l'économétrie, c'est un sous-champ de l'économie où en fait on fait de l'analyse statistique de données de sciences sociales. Hein. Et notre objectif, c'est d'établir un lien causal entre une variable et une autre. Donc ici, la catastrophe naturelle et un compte. Et donc le but d'une méthode économétrique, c'est simplement d'appliquer une méthode statistique appropriée pour essayer d'identifier ce lien entre ces variables.
Alors une des difficultés que vous avez rencontrées pour ça, vous dites que c'est le problème de l'endogénéité. Qu'est-ce que c'est et comment vous avez réussi justement à résoudre ce problème ?
Oui, ben, l'endogénéité, c'est le gros souci de l'économie. C'était vraiment notre enjeu, non pas de simplement établir une corrélation, mais une causalité, et donc de prendre en compte tous ces facteurs qui sont sociaux, économiques, géographiques, qui peuvent influencer soit une variable, soit l'autre, et donc comprendre les interactions sociales entre nos variables pour établir ce lien causal. Et toutes ces interactions sont des potentiels problèmes d'endogénéité.
Et vous avez enfin utilisé ce que vous appelez un modèle dynamique. Ça signifie quoi, dynamique, dans ce contexte-là ?
Alors ici, on parle de modèle dynamique, justement pour prendre en compte l'évolution dans le temps des effets. Et puisqu'on s'imagine bien qu'une catastrophe naturelle n'a pas le même effet à la date 1 qu'à la date 3, 4, 5, 10. Et donc, il faut prendre en compte le fait qu'une catastrophe naturelle est arrivée à différents moments du temps et qu'on peut comptabiliser l'effet à plus ou moins long terme.
Alors, on va se pencher maintenant sur vos résultats. Vous observez, bien sûr, on s'y attend, une augmentation significative des dépenses par les communes dans l'année qui suit le choc et jusqu'à 3 ans. Alors, cet impact, vous le chiffrez à 0,7%, 0,5%. On a du mal à se rendre compte si c'est quelque chose d'important, de facile à résorber pour une commune ou c'est important.
Alors ça peut être important, en fait c'est assez difficile à imaginer puisqu'on a une grande hétérogénéité entre les communes, il s'agit d'un résultat moyen, donc à la fois sur une toute petite comme une grande commune, donc c'est pas facile d'identifier vraiment le pourcentage de l'effet, c'est des dépenses par habitant, mais on peut imaginer que pour une petite commune c'est quelque chose d'important, oui.
Et est-ce que ça varie en fonction de l'intensité de la catastrophe ? On peut imaginer que oui.
Alors c'est une grosse difficulté, justement, à travers les données qui sont disponibles sur les catastrophes naturelles aujourd'hui en France, il s'agit simplement de données simples, si je puis dire, où on a simplement la connaissance qu'il y a eu une catastrophe naturelle, on ne sait pas les dommages qu'elle a causés, on ne sait pas l'ampleur, et il est assez difficile de chiffrer également l'intensité d'une catastrophe naturelle, donc je peux pas...
D'accord, on va mettre sur un même plan une inondation qui a submergé le bourg, ou une sécheresse qui a...
Tout à fait, on met ça sur le même plan, mais on estime que si le statut de catastrophe naturelle a été décrété, c'est que la catastrophe a été d'une ampleur relativement importante.
Alors, en regardant la dynamique du choc, donc ce que vous venez de décrire, cette augmentation des dépenses, elle persiste jusqu'à 10 ans après, c'est beaucoup ?
Alors oui, c'est beaucoup, c'est un des principaux résultats. Il paraît que les municipalités mettent de nombreuses années à se remettre d'une catastrophe naturelle, tout à fait.
Alors, on va se pencher maintenant sur le type de dépenses concernées, donc ce que vous appelez les sous-comptes. Donc, il y a les dépenses salariales, les achats courants, les dépenses d'équipement hors réparation et le remboursement d'emprunt. Et vos résultats montrent que l'impact d'une catastrophe, il est faible sur les salaires et les achats courants, mais plus fort sur les équipements et les investissements dans les 3 ans qui suivent le choc. Est-ce que ça signifie que les mairies, elles sont finalement rapidement capables d'investir après une catastrophe ?
Alors tout à fait, c'est pas vraiment qu'elles sont capables d'investir, mais qu'elles n'ont pas le choix que d'investir. On peut imaginer qu'après une catastrophe naturelle, une partie des biens publics ont été détruits, et donc elles n'ont pas d'autre choix que de maintenir la continuité du service public, et donc de rétablir la continuité de la route.
Et donc vous avez exclu dans votre étude les réparations de ce calcul. Pourquoi est-ce qu'elles n'en font pas partie ?
Alors ce n'est pas qu'elles ont été exclues, ce n'est pas un choix en fait, c'est la disponibilité des données. Il se trouve que les comptes municipaux, ils sont désagrégés mais à un faible niveau. En fait, je connais les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et à l'intérieur de ces sous-comptes, je connais simplement les salaires et les dépenses courantes, ce que vous avez dit, et également du coup du côté investissement, les investissements, les dépenses d'équipement et je ne connais pas les dépenses de réparation.
D'accord, on ne peut pas savoir ce qui relève de l'un ou de l'autre.
On ne peut pas savoir ce qui relève de l'un ou de l'autre.
Alors, plus surprenant pour les néophytes, vous observez également une hausse des recettes de 0,7%, donc ça fait presque un équilibre, jusqu'à 2 ans après la catastrophe. Donc cette hausse des recettes, c'est quoi? C'est du coup les subventions de l'État, c'est ça?
Tout à fait. La hausse des recettes, ça provient principalement des subventions de l'État. Les communes, principalement, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est grâce aux subventions des gouvernements supérieurs.
Alors, ces subventions de l'État, elles peuvent perdurer jusqu'à 8 ans après le choc. Et par contre, on a une diminution des recettes au bout de 3 ou 4 ans. On explique ça, ce petit gap de 3-4 ans?
Alors oui, parce que quand on regarde les recettes totales, donc il y a beaucoup de types différents de recettes à l'intérieur de ça, comme on peut penser justement à l'assurance qui va aider si des bâtiments municipaux sont endommagés. Donc ils sont à l'intérieur des recettes totales, mais les subventions, c'est simplement une partie en fait, de ce financement de la commune.
Alors, la première observation aussi que vous faites quand vous regardez les recettes, c'est l'augmentation des recettes fiscales. Donc, un des leviers des municipalités, c'est ça, c'est l'impôt en premier recours.
Bien sûr, c'est la fiscalité, oui, c'est même le levier qui est directement dans la main du maire.
Et une des observations que vous faites, c'est que finalement, on voit une augmentation de l'impôt juste après la catastrophe, mais finalement, comme souvent, ça ne redescend pas après. Il y a quoi? Il y a un effet d'opportunité, peut-être?
On peut supposer un effet d'opportunité. On peut supposer que les municipalités se servent de la catastrophe naturelle comme un moyen d'augmenter la fiscalité et de ne pas la redescendre, effectivement. C'est ce qui a été montré en Italie également.
Alors, vous observez aussi une augmentation des subventions d'investissement, alors bien sûr, juste après la catastrophe naturelle, mais aussi dans les 3 ans qui suivent. Comment est-ce qu'on explique que ça perdure comme ça?
Alors, tout à fait. Donc, la subvention d'investissement, elle va bien sûr arriver au moment de la catastrophe, mais un investissement, on sait que ça peut être long, ça peut prendre du temps de mettre en place des nouveaux investissements, ça peut mettre du temps aussi d'obtenir en fait la subvention qu'on a demandée. Et également, on peut supposer que la municipalité va mettre en place de la prévention à la suite de la catastrophe naturelle dans les années qui suivent, qui vont aussi relever de l'investissement.
Alors, à partir de toutes ces observations et ces données, est-ce que vous savez évaluer la période de rémission d'une commune qui a été touchée par une catastrophe naturelle?
Alors, c'est assez difficile à dire. Bah, comme vous le voyez, moi, je vois des effets qui perdurent jusqu'à 10 ans après la catastrophe naturelle, potentiellement plus, mais ça doit, c'est hétérogène et ça varie selon les municipalités. On peut aussi supposer qu'au bout de quelques années, une autre catastrophe naturelle va survenir, donc c'est difficile à imaginer.
Alors, on a parlé, donc, comme premier levier de réponse budgétaire, on a parlé donc de la fiscalité, on a parlé des subventions. Il y en a un troisième que vous identifiez, c'est le recours au prêt, à l'emprunt. Donc, vous montrez une augmentation de la dette la deuxième année après le choc. Donc, ce qui laisse supposer que les municipalités utilisent ce levier de l'emprunt pour faire face à la crise. Mais on note aussi une augmentation des remboursements de prêts dès l'année de la catastrophe. Du coup, il y a une petite incohérence là aussi, un effet d'opportunité.
Alors, tout à fait. En fait, on peut supposer que la municipalité va avoir besoin de s'endetter pour répondre aux besoins d'investissement. Cependant, potentiellement, la municipalité était déjà endettée au préalable et donc elle a besoin de rembourser son emprunt avant d'en prendre un nouveau. Également peut-être un effet d'opportunité, utiliser la catastrophe pour avoir des financements qui vont permettre de rembourser l'emprunt. On peut imaginer ça.
Alors, on sait, on le constate déjà, que le réchauffement climatique va entraîner une augmentation des catastrophes naturelles. Est-ce que votre étude, elle serait susceptible d'aider les municipalités, d'une part, à mieux les encaisser ou à mieux les prévenir, peut-être en investissant davantage dans ce volet-là?
Tout à fait. Donc l'objectif de cette étude, c'était de montrer que les catastrophes naturelles, c'est un problème de société au niveau local et que nos communes, elles vont être potentiellement handicapées par ces catastrophes naturelles et que ça va être très dur pour elles de s'en remettre. Et effectivement, je montre dans une autre étude que la prévention, c'est quelque chose de très efficace pour lutter contre les effets budgétaires des catastrophes naturelles et que la mise en place d'un plan de prévention, ça permet d'atténuer drastiquement les effets budgétaires des catastrophes.
Mais est-ce qu'on peut déjà constater que les communes qui sont régulièrement touchées par des catastrophes naturelles, elles ont déjà investi davantage et mis en place des plans de prévention efficaces?
Alors, on peut le supposer, j'espère pour elles qu'elles ont mis en place des plans de prévention. Moi, l'étude que j'ai faite, c'était regarder en amont, en fait, avant la catastrophe, celles qui avaient mis des plans de prévention avant l'arrivée d'une catastrophe, est-ce qu'elles sont protégées à l'avenir? Mais je suppose que si on met un plan de prévention à la suite d'une catastrophe naturelle, ça va bien sûr les protéger pour la suite.
Alors, pour terminer, on peut un peu parler justement de la durabilité de notre modèle qui se joue donc sur deux biais. Est-ce que le modèle actuel, il résisterait actuellement à une augmentation significative des catastrophes naturelles au niveau étatique? C'est-à-dire que est-ce que l'État va pouvoir continuer à subventionner comme elle le fait les municipalités touchées?
Alors c'est une question théorique vraiment intéressante. Hein. Beaucoup disent que la municipalité, elle ne devrait pas avoir besoin de se préoccuper de la prévention puisque l'État va la sauver à tous les recours. On voit que ce n'est pas le cas, puisque ici, on voit que notre commune, elle a certes des subventions d'État, mais elle a aussi besoin d'avoir recours à l'emprunt, d'avoir recours à l'augmentation des recettes fiscales. Donc l'État ne la protège pas totalement à l'heure actuelle. On peut supposer que dans le futur, ça va être de plus en plus compliqué.
Ouais. Voilà.
Et on a également le cas du côté de l'assurance, des assurances qui se
désengagent. Et oui, on l'a vu après on l'a vu ces dernières années, il y a des assurances qui refusent aujourd'hui d'assurer les communes. C'était dans le Nord, je crois, qu'il y avait eu le cas.
Tout à fait. Donc ça va être un problème à long terme qu'il ne faut pas négliger.
Très bien. Eh ben, on continuera de suivre vos travaux si vous avez d'autres papiers en préparation. Merci beaucoup.
Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Cette semaine, nous nous intéressons à la recherche en droit. Et c'est Alexis Verrassal, doctorant en histoire du droit, qui nous fait découvrir son terrain de recherche. Alors, pas de destination exotique ici, mais un voyage dans l'histoire, 18e, 17e et même 16e siècle. La bibliothèque d'histoire recèle des trésors qu'Alexis nous fait le plaisir de nous dévoiler.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58... 57.
Alors, nous sommes ici dans la bibliothèque d'histoire du droit, donc qui dépend de l'Institut d'histoire du droit. Y ont accès les doctorants, y ont accès les professeurs.
Donc ici, en fait, on est dans votre laboratoire de recherche, un peu, en quelque sorte.
Les chercheurs en droit, ils cherchent du droit, et le droit, il se trouve dans des vieux bouquins. En même temps, il y a quelque chose de très moderne là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va réinvestir ça dans un monde contemporain, dans un monde moderne, on va essayer de trouver des mécanismes juridiques.
Il y a une très bonne odeur de papier ancien qui flotte dans l'air. Il y a combien d'ouvrages à peu près ici ?
Au doigt mouillé, on est à peu près à 11 000 documents.
11 000 documents, et alors juste avant l'interview, vous me disiez que le plus vieux document datait de quand ?
Le plus vieux, il date de 1538. C'est un ouvrage de Jacques Rebuffy sur les constitutions royales et gallicanes.
Quelle est la période qui est la plus représentée dans cette bibliothèque ?
Celle qui saute le plus aux yeux, c'est celle qui est juste en face de nous, c'est le 19e. Effectivement, donc vous avez ici les bulletins de la Cour de cassation, les discussions, enfin les travaux préparatoires au Code civil, différentes versions du Code civil, et tous les grands noms en fait, de la doctrine civiliste du 19e siècle. On a aussi pas mal d'ouvrages du 17e, 18e siècle autour du droit romain et autour du droit coutumier.
Alors, à côté de moi, il y a une bibliothèque qui est protégée sous verre. J'imagine que c'est des livres anciens, encore plus anciens.
Effectivement, il y a des livres très anciens. Il y a notamment un livre d'un monsieur que j'aime beaucoup, puisque c'est en lien avec mon sujet de thèse. C'est un tableau des différences entre les religions de Philippe de Mornix qui date de la fin du 16e siècle. Donc, ce sont des livres vraiment très anciens, parfois très précieux ou parfois assez rares.
Vous pourriez nous en montrer un, votre préféré peut-être ?
Voilà. Voilà, c'est celui-ci. Donc, c'est un tout petit format, assez épais. Donc, on est à la fin du 16e siècle, en milieu des guerres de religion, en fait. Donc Philippe de Mornix, c'est un protestant qui écrit, en fait, contre les catholiques, mais qui écrit avec beaucoup d'ironie, en fait, parce qu'il se fait passer pour un catholique romain. Il s'inspire beaucoup de Rabelais, des choses comme ça. Donc on est en plein dans ce 16e siècle Renaissance foisonnant d'idées.
Je vous vois tenir ce livre à pleine main, il n'y a pas de précautions à prendre.
On ne prend pas de gants parce que le fait de mettre des gants, ça fait perdre de la sensibilité au bout des doigts. Donc on risque de forcer sur le papier. C'est du papier qui est ancien. Bon, c'est du papier de relativement bonne qualité. Il est épais, il est souple.
Oui, il est dans un état de conservation absolument incroyable, ce livre. Alors, la bibliothèque qui est derrière moi, qu'est-ce qu'on voit ?
Vous avez alors ici ce qu'on appelle les pandects, c'est ce qu'on appelle aussi le digeste. Le digeste, c'est vraiment le grand texte de droit romain, s'il en est. Donc, c'est un recueil d'extraits de la doctrine du droit romain qui avait été exécuté sous l'autorité de l'empereur Justinien, publié en 533. Ici, ce sont des éditions du 17e, donc qui sont relativement récentes.
Quel nom amusant pour un livre qui a l'air de peser 100 kilos.
Bah parce que digeste, en latin, ça désigne ce qui est ordonné. Donc il y a l'idée quand même d'une rationalisation de cette jurisprudence qui auparavant était très éclatée. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence à l'époque, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine.
Elle a un thème, cette partie de la bibliothèque ?
Il y a eu un début de classement qui a été fait surtout à ce niveau-là, là où on a essayé de regrouper par thématique droit civil, droit commercial, droit public... Droit canonique ici. Ici, on a de la doctrine. Donc, vous avez l'oiseau, vous avez Pasquier. Mais en fait, on est très contraint par la taille des ouvrages et la taille des rayonnages.
Il y a l'embarras du choix, mais du coup, tout à l'heure,
Je vous parlais de cela, là, les ordonnances des rois de France. Donc vous avez ici tous les textes royaux. Alors, on n'a pas la collection complète, hein, qui part de 1031 à 1422, donc à peu près fin du règne de Charles VI. Et ce qu'on voit ici d'être très intéressant, c'est que déjà sur la tomaison, tome 1, on est sur une période de temps d'à peu près de 300 ans, donc ça reste un bouquin assez gros. Mais... Et le dernier tome... Il commence en 1419, il s'arrête en 1422, et pourtant il est aussi gros que le tome 1. Donc on voit quand même que petit à petit, le roi commence à recouvrer un pouvoir législatif important. Donc déjà, pédagogiquement, ce sont des bouquins intéressants.
Et oui, visuellement déjà, on peut se rendre compte un peu du poids du droit et de son évolution. Parce que c'est pas un petit livre que Alexis est en train de nous sortir là.
Déjà, très très belle couverture. Très très bien conservé, c'est du cuir vert. Et ça, c'est les pages de garde qui sont très très belles. En fait, c'est obtenu par les réactions chimiques des cols.
C'est vraiment magnifique, oui. On est surpris de la culture que vous avez avec votre jeune âge. Vous êtes combien de doctorants à travailler en histoire du droit ?
On est une quinzaine.
Alors, dans ces boîtes bleues mystérieuses là, qu'est-ce qu'on trouve ?
Alors, d'autres bouquins, des bouquins qui sont particulièrement anciens ou un peu abîmés. Moi, celui que j'aime beaucoup.
Alors, on l'ouvre, chouette.
Alors, ça. C'est un recueil, Codicis, un code de loi wisigothe. Bon, il n'est pas d'époque, hein, évidemment, mais qui vient en fait résumer, compiler en fait les lois wisigothes, donc qui s'appliquaient de la chute de l'Empire romain, donc 5e siècle, jusqu'à la fin, l'extinction en fait des lois ethniques qui s'appliquaient jusqu'à peu près au 9e siècle, donc une fois qu'il n'y a plus de différence ethnique entre les gens.
Et alors pourquoi c'est votre préféré celui-là ?
Parce qu'il est un témoignage d'une époque où, finalement, malgré la perte d'une autorité centrale, qui était l'Empire romain, on a réussi à maintenir un semblant de vie commune, malgré les différences ethniques, malgré les différences de culture. On a permis à chacun de garder son droit. Visigoths et gallo-romains pouvaient vivre sur le même territoire avec leur droit propre. C'est ce qu'on appelle la personnalité des lois. On applique le droit qui est propre à son ethnie. Voilà, mais c'est quand même le souvenir d'une époque où, finalement, on essaie de bricoler un peu des choses pour maintenir un semblant de vie commune.
Merci beaucoup, Alexis. C'était vraiment passionnant. Et j'accueille maintenant notre invité de dernière minute. Bonjour Thomas Pichéry.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Donc vous êtes chargé de communication à la culture scientifique et vous nous présentez aujourd'hui le Bar des sciences qui se tiendra ce jeudi à 20h30 à la brasserie Le Dôme sur le thème des terres rares. Alors les terres rares, qu'est-ce que c'est Thomas pour commencer ?
Alors les terres rares, elles forment un groupe de 17 métaux. Alors je vais simplifier pour le bien de l'explication. Ils sont essentiels aux technologies modernes grâce à leurs propriétés entre autres magnétiques, électriques... et optique unique. Contrairement à ce que leur nom suggère, ils sont pas rares du tout dans la croûte terrestre, mais ils sont dispersés en très faible concentration dans les sols. Ça rend leur extraction assez complexe et coûteuse. C'est un peu comme le sel dans l'eau de mer. Il y en a partout, en très faible quantité, et du coup pour les extraire, ça demande énormément de ressources et ça coûte très cher.
Donc c'est pas rare, c'est pas vraiment des terres parce que c'est des minerais, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. C'est ça le gros enjeu. On les utilise pour les écrans de nos téléphones, les batteries des voitures, les aimants des éoliennes et même les lasers médicaux. Et sans eux, il y a de nombreux secteurs technologiques qui seraient malheureusement paralysés.
Alors oui, c'est ça. L'intitulé exact de la conférence, c'est donc « À la recherche des terres rares, les géosciences dans la transition énergétique ». Donc le sujet de la conférence, ça va bien être ça. C'est l'enjeu écologique de cette recherche.
Oui, tout à fait. Elles sont essentielles, comme je l'ai dit à l'instant, et pour faire une transition plus verte. Mais paradoxalement, bien qu'elles soient indispensables pour leur accès à ces technologies, c'est leur extraction qui peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. Pour obtenir ces éléments, il est souvent nécessaire de creuser de vastes mines à ciel ouvert, ce qui entraîne la destruction de la végétation et des sols. Le processus d'extraction utilise de grandes quantités, entre autres, de produits chimiques qui peuvent contaminer les eaux souterraines, les rivières, les nappes phréatiques si ce n'est pas bien fait. Et face à cela, il y a deux solutions qui émergent en majorité. C'est développer des méthodes d'extraction moins polluantes dans un premier temps, mais aussi renforcer le recyclage des appareils électroniques pour récupérer ces matériaux. Aujourd'hui, il n'y a qu'une petite partie de ces terres rares qui est recyclable et recyclée, et ça accentue notre dépendance aux mines.
Donc, sujet d'actualité fort. Qui seront les experts et les expertes présentes jeudi ?
Alors, nous avons tout d'abord Bénédicte Senki, maîtresse de conférences en géologie. Elle étudie la formation des métaux critiques dans la croûte terrestre et la recherche des minéraux essentiels aux technologies durables. Ensuite, notre second expert, Clément Bonnet, maître de conférences en sciences économiques. Ses travaux portent sur la transition énergétique et l'évaluation des moteurs et des freins à l'avancée de celle-ci.
Ils seront deux autour de la table. Alors, on rappelle le format du Bar des Sciences, ce n'est pas une conférence.
Exactement, le Bar des Sciences n'est pas une conférence, c'est un espace d'échange, de débat. Et depuis plusieurs années, ces rencontres permettent au grand public et aux spécialistes de discuter librement des sciences et de leur impact sur la société. C'est des rencontres humaines, des mélanges de disciplines, des chocs des cultures, un partage des points de vue. C'est comme ça que cette initiative nourrit la réflexion collective. Parce que parler de science, c'est aussi un acte démocratique. Et quoi de mieux qu'un bar pour encourager la discussion?
On est surtout le Dôme. Donc c'est donc ce jeudi, 20h30, la brasserie Le Dôme. Merci beaucoup Thomas.
Avec plaisir.
À bientôt, le prochain c'est quand?
Je sais pas.
Le mois prochain, je crois.
Voilà, c'est ça.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Robin Layou pour la réalisation de cette émission. On se retrouve, alors non pas la semaine prochaine parce que c'est les vacances scolaires, mais le 4 mars. D'ici là, restez branchés grâce à nos rediffusions.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.